Là-haut. Carnet d'un voyage au Laos. février, Mwangkwa. Mes Autrichiens sont partis à l'aube vers la frontière vietnamienne. Pour les remercier de m'avoir payé le bateau, je leur ai donné la main du Bouddha du novice de Luang Prabang. Je marche sur la route pour sortir du village. Les gens sur mon passage rient et pointent du doigt mon sac de cao nhao, comme s'ils n'imaginaient pas que je puisse manger la même nourriture qu'eux. Après 20 minutes, une toute petite femme me rattrape. Elle se met à marcher derrière moi. Veste d'uniforme à l'air vietnamien, besace en toile de sac de riz dont la bandoulière s'appuie sur son front et qui contient un arrosoir. Elle porte des bottes, c'est la première fois que j'en vois. Je m'arrête pour qu'on marche de front. Elle s'arrête aussi, me sourit, me parle, me fait signe d'avancer. On reprend la marche. J'entends ses bottes qui raclent le sol et j'essaie de me caler sur ce rythme pour trouver une cadence qui nous serait commune. Mais vraiment non, ça me gêne d'être devant. Je m'arrête à nouveau. Elle aussi, à 3 pas derrière moi. Je lui fais signe de me rejoindre. Non, non, si, si, non, non. Finalement, la voilà. Sa tête arrive au niveau de mon épaule. On passe devant des maisons où les gens se chauffent les mains au-dessus de petits feux. Malgré ce froid qui a l'air habituel, les flambées se font dehors ou sous un appentis accolé à la maison, d'où la fumée s'échappe par le haut des murs ajourés. La femme annonce notre arrivée par quelques mots, haut et fort. Tout le monde sourit et montre ma poche de cao nhao. On marche, trop vite pour elle, trop lentement pour moi. L'humanité partagée est là, dans toute sa force et son étrangeté. Nos corps en mouvement et nos yeux se parlent, avec pour seule musique le rythme de nos pas sur la route. Il ne pourrait rien y avoir de plus entre nous, sauf si je restais vivre là, ou si elle m'accompagnait dans mon voyage. Elle se met à me parler, beaucoup, comme si je comprenais tout, et elle me jette des regards entendus, en quête d'approbation. De temps en temps, je réponds en français. Moi aussi, je raconte quelque chose. On finit par sortir de la zone urbanisée. Après ces soliloques, c'est le temps des questions. Elle demande mon âge. 32. Elle. 39. Elle me dit qu'elle va arroser son jardin. Et moi, où je vais? Je marche. Mauvaise réponse. Elle repose la question. Je réfléchis à une réponse qui pourrait la satisfaire. Je viens de Nongkyo et je vais à Pongsali. Elle est un peu étonnée, ce n'est pas la route de Pongsali, mais au moins c'est une réponse. On marche en silence, longtemps. Elle demande si j'ai un briquet. Je sors de mon sac celui que j'ai acheté ce matin au marché. Elle le prend dans sa main, elle veut le garder. Elle me sourit, le briquet disparaît dans la poche de sa veste militaire. Encore 5 minutes de silence. Au rythme de nos pas, je pense à elle, très hardie, dure, solide, souple, forte, sûrement mère de plusieurs enfants. Elle est née pendant la guerre ici, à quelques kilomètres de Dien Bien Phu. Elle montre mon coupe-vent. « Tu donnes ?» Je ris. Elle aussi. Elle tentait sa chance. Au moins, elle aura le briquet. Tout d'un coup, le visage fermé, elle s'arrête. Je veux l'attendre, mais elle me fait signe d'avancer. Bon, le protocole est rétabli. Je marche devant, elle derrière. J'essaie de l'attendre à nouveau, je me retourne, mais elle me fait des grands gestes pour que j'avance. Pendant quelques kilomètres, on marche comme ça. Je me retourne de temps en temps, elle me fait signe de continuer. À un moment, elle m'appelle, me montre. C'est là qu'elle tourne. Me remercie pour le briquet, les deux mains en prière devant le visage et le haut du corps courbé. Je la regarde grimper dans les herbes mouillées de la colline. l'arrosoir brinquebale dans son dos. Soir, moins quoi. Tout à l'heure, au retour de la marche, des gens m'ont invité autour de leur feu. Nao, nao, froid, froid. Je suis restée un long moment à me rôtir les mains. Pendant ce temps, les jeunes femmes fabriquaient des cocottes en papier avec des emballages de biscuits. Les hommes fumaient. De temps en temps, quelqu'un d'une maison d'en face s'approchait pour dire trois mots et rire. Plus tard, de l'autre côté du pont suspendu, je rencontre Souk, qui se promène avec une jeune femme, qu'il ne me présente pas, et qui se tient en retrait, les yeux baissés. Il parle anglais avec l'accent américain. Son père, dit-il, travaille à l'hôpital, là, dans ce bâtiment en ciment qui a l'air désert. Lui fait ses études à Pongsali. Et la fille ? C'est ma petite amie. Vous allez vous marier ? Non, certainement pas, c'est juste comme ça. La nuit est tombée, tous les Lao sont autour de leur feu, aucun ne m'invite. Dans l'obscurité de la terrasse venteuse de ma guest house, j'essaie de manger la soupe qu'on vient de m'apporter. Nouilles farineuses, gros bouts de choux crus, tronçons de gingembre, queue de plante, sans aucun assaisonnement. Je suis logée dans une chambre sans fenêtre ni volet, à peine quelques degrés au-dessus de zéro, je me pèle. Au moins, ça fait plaisir, le touriste ici, on s'en tape. Là-haut, un voyage au Laos de Marine Richard avec l'aide précieuse de Mathieu Croc, Étienne Noiseau et Tony Regnault. Rendez-vous demain, même endroit, même heure, pour la suite. En attendant, retrouvez les épisodes précédents sur le www.grenouille.com. 888.org.